Et bonjour à tous. Dans 14 jours, la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Mais saviez-vous que pour financer cette présidence, on avait parfois recours à de grands groupes privés ? Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour Jacques.
Après Coca-Cola en 2019, la France va en effet faire rouler des voitures électriques offertes par Renault et Stellantis, officiellement pour valoriser le savoir-faire français. Mais on verra que ce système de mécénat est perçu par plusieurs ONG comme un possible conflit d'intérêts.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
La présidence tournante de l'UE, c'est la présidence du Conseil de l'Union européenne que chaque État membre exerce à tour de rôle pour 6 mois. Après le Portugal et la Slovénie, c'est au tour de la France d'exercer ce rôle à partir du 1er janvier 2022.
Voilà un extrait d'un clip de la Caisse des dépôts consacré à la future présidence française du Conseil de l'Union européenne. On se souvient qu'Emmanuel Macron a récemment précisé quelles orientations il comptait lui donner. Mais au-delà de ses priorités, on va voir donc comment est financée cette présidence, Benoît Colomba. Et pour commencer, on va peut-être tout simplement rappeler de quoi on parle exactement.
Oui, le Conseil de l'Union européenne, c'est la réunion des principaux ministres ou secrétaires d'État des 27 États membres, dont la présidence est assurée tous les 6 mois par l'un de ces États. Alors la dernière présidence pour la France, c'était en 2008. Une présidence du Conseil qui ne doit pas être confondue avec le Conseil européen qui lui réunit les 27 chefs d'État ou de gouvernement membres de l'Union européenne.
Et si l'Union européenne a, elle, un budget qui lui est propre et qui est abondé par les États, la présidence de l'Union, elle, en revanche, n'en a pas.
C'est ça. En fait, c'est à chaque pays de se débrouiller, comme l'explique à Bruxelles le journaliste spécialiste des institutions européennes au journal Contexte, Jean Comte.
Il n'y a pas de budget de l'Union européenne dédié à ça. Donc chaque État finance ça comme il veut. Et donc ce qui se fait beaucoup, c'est que les États vont demander à des entreprises privées du faire du sponsoring, du mécénat, du parrainage. Et donc ça veut dire soit d'apporter dans certains cas directement de l'argent pour soutenir la présidence, soit sinon de fournir un service spécifique.
Un service spécifique, c'est-à-dire ?
Eh bien, en fait, tous les domaines sont concernés. Il existe une palette de services très large, comme le détaille Vicky Kahn, qui suit ces questions de près pour l'ONG Corporate Europe Observatory.
Il peut s'agir de la fourniture de boissons gazeuses ou d'alcool, mais aussi d'une flotte de voitures, de systèmes informatiques ou des logiciels. Bref, tout ce dont la présidence pense avoir besoin pour organiser les événements dont elle est responsable et qui ne sont pas couverts par le budget de l'Union européenne.
Ah oui, donc ce sont des entreprises ou des groupes privés qui permettent de faire fonctionner la présidence de l'Union européenne.
Eh bien, en grande partie, oui, mais c'est une pratique courante. Quasiment tous les pays ont à chaque fois recours à des sponsors qui font en même temps évidemment leur publicité. La Croatie, en 2020, avec la principale compagnie pétrolière du pays. La Finlande, en 2019, avec BMW. L'Autriche, en 2018, avec Porsche et Audi. Ou encore Microsoft et Mercedes, soutien de l'Estonie en 2017. Seule l'Allemagne y a finalement renoncé l'an dernier.
C'est un peu comme dans le sport finalement. Maintenant, ce qu'il faut préciser, Benoît, c'est que ce type de fonctionnement, il ne fait pas l'unanimité.
Effectivement, il est critiqué par certains partis. Écoutez par exemple l'eurodéputé belge Philippe Lamberts, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen.
Ça donne l'impression que finalement, entre un club de foot, une exposition culturelle ou une présidence de l'Union, ce sont deux événements qui doivent être en fait financés par le secteur privé. Si il est important que les gouvernements aient les moyens d'exercer leurs activités, comme par exemple ici une présidence tournante de l'Union européenne, mais ces moyens, ils doivent être obtenus par cette ressource bien connue qui s'appelle la fiscalité. Autrement dit, oui, les entreprises peuvent contribuer à la présidence tournante d'un pays de l'Union européenne au travers des impôts qu'elles payent. Ce qu'on constate justement, c'est que beaucoup de décideurs politiques estiment que taxer les entreprises, c'est quand même pas très bien. Qu'en fait, il vaut mieux leur laisser la bride sur le cou, quitte à ce que de temps en temps, ils nous fassent l'aumône de financer telle ou telle activité.
Oui, ce risque de mélange des genres que soulève ce député européen, il a déjà provoqué des polémiques.
Oui, on l'a vu notamment en janvier 2019, lorsque la Roumanie prend la présidence tournante du Conseil de l'Union. La directrice générale de l'association Foodwatch, qui milite pour une alimentation plus saine, Karine Jacquemart, est alors alertée par un journaliste allemand qui s'est rendu à une réunion et qui s'est étonné de la présence d'un sponsor un peu encombrant.
En arrivant à cette réunion de la présidence, il s'est rendu compte qu'il y avait des poufs Coca-Cola, des enseignes Coca-Cola, des bouteilles Coca-Cola, enfin absolument partout. Et il a creusé et il s'est rendu compte que Coca-Cola avait un contrat de partenariat officiel avec la Roumanie et sa présidence. Donc ça nous a choqués au plus haut point. Le message, nous, qu'on y a vu, c'est quasiment une provocation de dire on n'a même plus à se cacher du fait que les lobbies des multinationales peuvent tout à fait être partenaires officiels.
Et cette découverte, elle irrite d'autant plus à l'époque Foodwatch que Coca-Cola est alors dans son collimateur.
Effectivement, parce que l'entreprise de soda qui sponsorise donc la présidence roumaine s'oppose dans le même temps à un étiquetage baptisé Nutri-Score que l'association veut rendre obligatoire à l'échelle européenne, comme le détaille encore Karine Jacquemart.
Il y a un enfant sur 5 en Europe qui est en surpoids ou obèse, donc il faut absolument agir. Et parmi les mesures qu'on porte, c'est le Nutri-Score, donc le logo nutritionnel, afin qu'il devienne obligatoire en Europe. C'est également un encadrement de ce qu'on appelle le marketing qui cible les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Coca-Cola a fait partie de ce qu'on appelait les Big Six. Alors maintenant, plusieurs ont fini par s'engager pour le Nutri-Score, mais effectivement, il fait partie d'une coalition d'entreprises qui, depuis des années, bloque tout projet de logo nutritionnel obligatoire sur les emballages parce qu'ils voient d'un mauvais œil le fait qu'on puisse voir que leurs produits sont trop sucrés, par exemple.
Et comment ça s'est terminé alors ?
Eh bien, Foodwatch contre-attaque, lance une pétition et demande aux États membres de refuser tout type de parrainage commercial. Puis, l'association saisit la médiatrice européenne qui souhaite alors établir des règles contraignantes sur le sujet.
Et elle a eu gain de cause ?
Eh bien, les négociations duraient plus d'un an et le journaliste Jean Comte nous explique ce que ça a finalement donné.
À la fin, c'est un document assez court que j'ai sous les yeux ici. Ça fait une page, il y a 5 paragraphes. C'est pas contraignant du tout. Et en gros, c'est juste un document qui rappelle que chaque État membre a la responsabilité de prendre ou pas des sponsors, de les choisir comme il veut, qui rappelle que c'est un sponsoring de l'État membre et pas un sponsoring du Conseil en tant que tel. Et donc, on peut pas non plus avoir des logos partout dans le Conseil de l'Union européenne, dans le bâtiment européen, mais dans l'État membre, faites ce que vous voulez. Qui conseille fortement d'avoir des procédures en place pour gérer la question des conflits d'intérêts, si vous prenez un sponsor très actif sur un dossier que vous voulez faire aboutir durant la présidence, et qui aussi propose, suggère, pousse, pour avoir des règles transparentes pour ce qui est de la sélection de ses sponsors. En gros, on conseille fortement aux États membres d'être aussi éthiques et transparents que possible sur la question.
Oui, donc en fait, chaque pays peut continuer à faire ce qu'il veut, mais on en appelle, c'est ce que j'entends, à sa responsabilité. Et la France là-dedans, elle s'est positionnée comment ?
Eh bien, selon Jean Comte, elle a pesé de tout son poids pour aller vers un règlement qui soit le moins contraignant possible.
La France n'était pas dans les plus enthousiastes. Il s'est rendu partie de ceux pour qui on ne peut pas imposer des règles au Conseil en tant que tel et pour qui c'est une responsabilité d'État membre et donc ils considèrent qu'il n'y a pas de règles imposables dans ce truc-là. Et donc on a vu plusieurs drafts qui circulaient, plusieurs projets, plusieurs documents de travail. Il y a aussi un de mes collègues journalistes de e-Observer, un média anglophone qui a écrit là-dessus. Il faisait partie de ceux qui ont beaucoup insisté pour recadrer la formulation et faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de vocabulaire fort sur une obligation possible qui transparaisse dans le texte.
France Inter, secret d'info.
Bien, alors maintenant qu'on a vu que des multinationales, y compris Coca-Cola d'ailleurs, financent les présidences tournantes de l'Union européenne, eh bien expliquez-nous, Benoît Colomba, comment ça va se passer avec la France ?
Oui, alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la position française est longtemps restée dans le flou, comme en témoigne Karine Jacquemart de Foodwatch.
Dès le 30 avril 2019, en fait, nous avons écrit directement à Emmanuel Macron et à ses équipes pour souligner l'importance de ce sujet et leur demander de s'engager à ne prendre aucun sponsor privé lors de la présidence française. On n'a pas eu de réponse sur le fond depuis cette lettre. On les a de nouveau alertés début 2021. puisque là, on a vu que le Portugal, de nouveau, faisait appel à des sponsors, et notamment un distributeur de Pepsi et de Lipton au Portugal. Donc, on a de nouveau mené une action contre le Portugal, mais on a voulu, en parallèle, continuer à alerter et à interpeller le président de la République française pour lui dire « Qu'en est-il de la France ? Et allez-vous, oui ou non, prendre un engagement de ne pas accepter de cadeaux, en quelque sorte, de sponsors privés pendant la présidence française ?»
Et alors, finalement, on a décidé quoi ?
Eh bien, la réponse est tombée il y a quelques semaines. Il n'y aura pas de financement privé sur un budget global de 150 millions d'euros, dit le gouvernement. Enfin, pas complètement, puisqu'il y a tout de même une exception, précise le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune.
Il y a une dérogation ou une nuance, c'est la question des moyens de transport. Parce que nous voulons que cette présidence soit la plus verte qui soit, et si je puis le dire ainsi, aussi une présidence de souveraineté industrielle française. Et donc, pour les véhicules qui vont transporter les délégations, les ministres qui viennent en France, nous aurons un accord, nous l'avons sollicité, avec les constructeurs automobiles français, les deux, pour équilibrer aussi, Stellantis d'une part, Renault d'autre part, qui ont accepté de fournir 220 véhicules qui sont soit hybrides, soit électriques. C'est l'État qui finance cette présidence, et on a des véhicules qui sont fournis de manière écologique par des constructeurs français.
Ah oui, donc les véhicules destinés au déplacement pendant la présidence française seront offerts par Renault et par le groupe qui comprend notamment Peugeot et Citroën ?
Oui, et cela sans procédure d'appel d'offres, ce qui pose un certain nombre de questions et pas seulement aux ONG. Écoutez par exemple Paul Varacas, c'est le président de la Société des représentants en affaires publiques européennes, autrement dit le lobby des lobbies bruxellois.
S'il n'y a pas d'appel d'offres, il va y avoir un souci. L'apparence du conflit d'intérêts doit être évitée. Si vous avez besoin de réduire vos coûts, dans ce cas-là, vous prenez, vous choisissez le partenaire qui fait la meilleure offre dans le cadre d'une offre publique. Ça aurait été plus simple, à mon avis, hein, de passer via ce marché public pour éviter ce genre de critiques. Les pays qui ont eu recours à du mécénat privé ont fait appel à des appels d'offres publics pour justifier l'utilisation de mécénat privé, notamment dans la réduction de coûts.
Et pourquoi ne pas en avoir fait cette fois-ci alors ?
Eh bien clairement pour favoriser les constructeurs français, selon Clément Beaune, avec un appel d'offres, on prenait un risque.
On aurait peut-être eu des véhicules étrangers, je pense qu'il y a une question d'image aussi pour une présidence, et surtout on n'aurait pas pu, sans doute, compte tenu des règles de marché, de leur complexité, avoir des véhicules propres. Je pense que ça fait partie aussi pour une présidence d'un symbole d'avoir des véhicules français et surtout d'avoir des véhicules propres. Assumer cela, c'est positif pour la présidence. Moi, je préfère que les véhicules qui circulent en France pour transporter des délégations ministérielles, ils soient Renault ou Stellantis et électriques ou hybrides, plutôt que constructeurs chinois, coréens, japonais ou américains et qu'en plus, ils soient pas électriques et pas propres.
Ouais, donc le ministre justifie son choix. Cela dit, Benoît, c'est pas la première fois que la France fait appel à des mécènes.
Effectivement, c'était déjà le cas en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec 10 millions d'euros pris en charge par des entreprises, 140 véhicules fournis par Renault et Peugeot à l'époque, et le groupe Lagardère, qui finance l'installation d'une immense carte de l'Europe sur les pelouses du Champ de Mars à Paris. Photo qui, pour l'anecdote, s'est retrouvée à la une du journal du dimanche, propriété du même groupe Lagardère. Sans oublier le soutien de la société Areva, comme le rappelle le journaliste spécialiste du nucléaire Thierry Gadeau.
Areva s'est occupé pour illuminer pendant les 6 mois de la présidence, illuminer la Tour Eiffel pour un coût d'1,5 million. L'intérêt, c'est de faire plaisir au président Sarkozy, donc participer au succès de la présidence française de l'Europe, évidemment, c'est donner des gages au président pour essayer de rester en poste. Ces opérations-là de mécénat, on peut appeler ça de tous les noms, c'est en fait des opérations de communication politique, tout ça pour essayer d'obtenir des contrats. C'était une pratique courante chez Areva.
Une pratique courante. Maintenant, Benoît, la France, elle explique qu'elle va avoir recours à minima à cette pratique.
Oui, mais 2 constructeurs automobiles, c'est déjà trop pour certaines ONG qui estiment qu'il s'agit là d'une question de principe. Écoutez ce qu'en dit Karine Jacquemart de Foodwatch.
Tout le discours là consiste à jouer un peu sur les mots. On a entendu dans beaucoup d'interviews, oui, mais alors ne vous inquiétez pas, c'est pas du sponsoring, ce sera pas non plus des partenariats, ce sera des mécènes. Ben oui, mais en fait, ça change rien. Que ce soit financier, que ce soit en nature, que ce soit sous forme de partenariat, que ce soit sous forme de mécénat, ça ne change rien. Dans le mécénat, si vous voulez, c'est plus pro bono, fiscalement,
gratuitement.
Voilà, gratuitement. Donc il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a pas de contrepartie, si vous voulez. Oui, mais sauf que les contreparties, elles vont être indirectes. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas anodin d'associer une marque d'entreprise à une présidence au plus haut niveau des institutions de l'Union européenne. C'est-à-dire que tout risque de conflit d'intérêts au plus haut niveau de l'Europe est à proscrire.
Et je précise que la France demande aux marques concernées de ne pas faire de publicité sur ce type de mécénat.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors avançons un peu Benoît Colombat, examinons maintenant l'argument utilisé par Clément Beaune pour justifier le recours aux constructeurs automobiles français. Lui souhaite qu'on utilise des véhicules propres pour, dit-il, symboliser une présidence verte.
Oui, mais là aussi ce choix fait débat parce que Renault et les filiales de Stellantis ont été mises en examen pour tromperie l'été dernier dans l'affaire dite du Dieselgate. On les soupçonne d'avoir triché lors de tests anti-pollution. Alors se servir de leur image pour envoyer un message écologique, ça pose problème pour François Laforgue qui défend des victimes présumées de cette affaire.
Les éléments apportés par les différents intervenants dans ce dossier semblent confirmer qu'il y a bien eu l'utilisation par ces entreprises de logiciels truqueurs. Ces logiciels ont permis de majorer finalement la pollution en conditions réelles de circulation. Donc à l'heure où on prétend lutter contre la pollution et lutter contre le réchauffement climatique, eh bien le signal qui est lancé en associant de grandes entreprises à la gouvernance de l'Union européenne par la France est un mauvais signal, puisque on met en avant les mêmes sociétés comme étant des sociétés particulièrement propres, etc., etc. Ces entreprises doivent aussi s'expliquer sur les comportements qu'elles ont eus pendant des années pour cacher la pollution émise par leurs véhicules.
Et j'ajoute que Renault et Stellantis démentent la moindre intention malveillante dans cette affaire.
Ouais, on va préciser que la justice, effectivement, ne s'est pas encore prononcée. Mais Clément Beaune, lui, il répond quoi à ça?
Eh bien que personne n'a effectivement encore été jugé et que les constructeurs français ne sont pas les seuls mis en cause.
Il y a beaucoup de constructeurs en Europe qui ont ce problème. C'est pas moi ou le gouvernement qui va juger à la place. En revanche, là, on aurait un problème si le gouvernement souhaitait donner son avis sur une telle procédure ou intervenir dans une telle procédure. Évidemment, on ne le fait pas. Tirons le fil jusqu'au bout. Si on faisait cela, on demanderait demain au président de la République, au premier ministre, aux ministres, aux membres du gouvernement, à nos préfets, nos ambassadeurs de ne plus circuler dans les véhicules français. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour notre industrie automobile, pour l'image de la France?
Voilà donc pour la position du secrétaire d'État. Maintenant, en creusant le sujet du verdissement de certains constructeurs ou de certaines énergies, Benoît, vous avez découvert qu'il existe un autre débat qui est assez vif en ce moment à Bruxelles.
Oui, et là, il concerne ce qu'on appelle la taxonomie européenne.
La taxonomie, alors on va expliquer.
En fait, il s'agit d'un registre classant les différentes énergies avec un label plus ou moins vert. Il y a actuellement un grand jeu d'influence dans lequel la France pousse pour que le nucléaire soit reconnu par la Commission européenne comme étant une énergie durable, donc non polluante. Mais pour y parvenir, il lui faudrait s'allier à d'autres pays qui, eux, soutiennent que le gaz fossile devrait aussi en faire partie.
Et une alliance de ce type, c'est envisageable?
Eh bien, c'est ce que semble montrer une note révélée par la journaliste Anna Hubert, spécialiste de l'énergie au journal Contexte. Une note dont plusieurs indices montrent qu'elle aurait été rédigée par la France.
La note proposait une solution clé en main à la Commission avec un certain nombre de critères qui permettraient d'inclure à la fois le gaz et le nucléaire avec certaines conditions à ce système de label vert. Donc c'est une note entièrement rédigée en anglais comme ce qui est fait d'habitude dans le système bruxellois, mais ici le mot gaz prenait un Z et pas un S à la fin.
Donc, comme écrit en français.
Comme écrit en français et pas du tout comme écrit en anglais, donc petite coquille. Plusieurs sources confirment Kalegman de la France. Le but c'est de montrer à la Commission, bah, regardez, il y a ce truc qui circule, il y a plusieurs pays qui ont l'air intéressés à l'est de l'Europe, et donc de lui montrer que vraiment, si en tout cas elle choisissait de reprendre ce système de classification pour faire entrer le nucléaire et une partie du gaz fossile dans le système de label vert, bah, elle aurait le soutien d'une majorité d'États, ou en tout cas pas de veto.
Ouais, donc à Bruxelles, la France pousserait le gaz comme une possible énergie verte pour mieux faire avancer ses projets nucléaires.
Oui, et c'est ce que confirme Paul Schreiber de l'ONG Reclaim Finance, spécialisé dans l'impact de la finance sur le climat.
La position française sur la question gazière, en fait, dès le début du débat de la taxonomie, elle est très discrète, c'est-à-dire qu'on a une position très ferme sur le nucléaire, oui au nucléaire, et pas grand-chose sur le gaz. Et au fur et à mesure, on va avoir des initiatives communes qui vont être publiées entre les États pro-gaz et la France, donc la Pologne, la Hongrie, bien entendu la République tchèque aussi. Et ces initiatives vont croître en force jusqu'à la publication finalement de cette note blanche qui propose une inclusion extrêmement large du gaz au niveau européen et du nucléaire. On est face vraiment à une logique de double jeu de la part de la France en matière environnementale, avec d'un côté en effet des déclarations fortes sur un certain nombre de sujets, même sur la question du nucléaire, l'argument qui est mis en avant par la France, c'est la baisse de la dépendance sur les énergies fossiles et donc des émissions de gaz à effet de serre. Mais d'un autre côté, on a cette démarche commune avec les pays de l'Est de l'Europe pour l'inclusion du nucléaire et du gaz à la taxonomie. Et c'est vraiment quelque chose qui pourrait remettre en cause tous les objectifs climatiques européens.
Donc on marcherait main dans la main avec des pays gaziers de l'Est de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on répond à ça côté français ?
Eh bien, on explique vouloir simplement trouver un compromis autour du gaz. Mais la priorité pour la France, c'est bien le nucléaire, affirme le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune.
Il y a une discussion européenne, ce n'est pas notre demande, pour avoir une taxonomie complète qui inclura certainement le gaz avec un certain nombre de seuils. Ce que nous faisons dans les papiers qui ont circulé, qui d'ailleurs ne sont pas définitifs, nous demandons l'inclusion nucléaire, nous n'avons pas de demande sur le gaz, et il faut trouver un compromis européen, c'est ainsi. Donc on a fait une proposition, aussi en tant que future présidence, avec des seuils pour le gaz, qui nous semblent raisonnables et améliorer la situation par rapport à aujourd'hui. Mais j'insiste sur ce point, c'est pas la France qui est demandeuse sur l'inclusion du gaz dans la taxonomie. La France, elle est demandeuse, ça je l'assume, sur le nucléaire.
Ouais, la France n'est pas demandeuse sur le gaz, mais ce qu'on entend en filigrane, Benoît, c'est qu'un compromis est effectivement possible.
C'est ça, et on a bien vu l'enjeu que constitue ce dossier pour les secteurs concernés. Lorsque, dans un premier temps, des travaux techniques ont exclu le gaz et le nucléaire de cette fameuse taxonomie, la réaction a été immédiate, décrypte Paul Schreiber de Reclaim Finance.
On a vu une progression énorme du nombre, finalement, de rencontres entre les fonctionnaires européens et les acteurs du lobbying gazier. Et pour le nucléaire, l'augmentation, elle est moindre, mais on a quand même un doublement du nombre de rendez-vous par rapport à la période précédente. L'objectif affiché, hein, très publiquement par les acteurs des deux secteurs, c'est d'être inclus, d'être considéré comme durable dans cette taxonomie pour deux raisons. Une première raison qui est une raison d'image, énergie durable, c'est extrêmement positif, ça veut dire un certain nombre de financements publics aussi qui sont derrière. Et la deuxième raison, c'est pour bénéficier des financements venant du secteur financier. Par exemple, j'ai un fonds qualifié de durable de BNP Paribas. Mon fonds durable, il va pouvoir financer ses énergies en étant labellisé grâce à la taxonomie.
Et le résultat des courses, les gagnants et les perdants de cette taxonomie, on les connaîtra quand ?
Eh bien, a priori, dans les jours qui viennent.
Ah oui, ce sera rapide. Bon, en attendant, nous, on va s'interrompre quelques instants et dans une deuxième partie, on va élargir le sujet. On va entrer dans les coulisses de lobbies qui sont très actifs à Bruxelles. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about but
let you go. I'm sorry if it's torture though. I know, you better lock your door.
C'est doux, c'est lancinant avec ce grain de voix bien connu désormais. C'était Billy Bossa Nova, extrait du deuxième album de la jeune américaine Billie Eilish.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
Et retour à notre enquête dans les coulisses de la future présidence française du Conseil de l'Union Européenne, Benoît Colomba. On évoquait tout à l'heure la présence de multinationales dans le financement de ces présidences. Mais ces multinationales, elles sont en fait très actives en permanence à Bruxelles.
Bah oui, parce que c'est là que se décident les réglementations européennes. Et c'est pour ça que Bruxelles est la ville où l'on retrouve le plus de lobbyistes, juste après Washington, entre 26 000 et 37 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. Avec un objectif bien précis, observe l'eurodéputé vert belge Philippe Lamberts.
Ce qui est très important pour les détenteurs du pouvoir économique, c'est d'avoir un accès aussi fréquent et direct que possible aux décideurs politiques pour pouvoir faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Tout ce sponsoring participe de cette entreprise, j'ai envie de dire, de colonisation du monde de la décision politique par le monde du pouvoir économique.
Et pour empêcher cette colonisation, pour reprendre ce terme, du politique par le pouvoir économique, on fait comment ?
Alors, ce lobbying, il est encadré, bien sûr, avec un certain nombre de règles, de transparence, mais selon Jean Comte du journal Contexte, il y a encore beaucoup à faire.
En gros, les obligations en vigueur, c'est que les commissaires européens et leurs cabinets, les gens très élevés à la Commission européenne doivent publier leurs rencontres. Et du côté des États membres, en gros, l'ambassadeur de la France auprès de l'Union européenne et son adjoint sont les deux seuls qui doivent publier tous leurs rendez-vous. Les autres, pas du tout. Et donc, ça veut dire que vous avez à la Commission européenne 30 000 fonctionnaires et à l'organisme qui représente la France auprès de l'Union européenne et qui négocie au nom de la France, vous avez 200 fonctionnaires. Et donc là, vous avez beaucoup de fonctionnaires pour qui il n'y a absolument aucune transparence. Or, tous ces gens ont des relations quand même assez suivies, assez consistantes avec différents lobbies.
Ah oui, donc les fonctionnaires, eux, peuvent rencontrer en fait qui ils veulent sans le faire savoir. Et pour la future présidence française, on saura qui rencontrera qui ?
Alors officiellement, oui, il faut savoir qu'en juillet dernier, 6 mois donc avant le début de la présidence française, le représentant permanent de la France à Bruxelles a déjà publié la liste de ses rendez-vous avec les différents représentants d'intérêt. Et cette liste est très révélatrice. Deux ONG ont analysé les rendez-vous du représentant français. Et voilà ce qu'a constaté Olivier Petitjean de l'Observatoire des multinationales.
Dans 9 cas sur 10, ils rencontrent soit des entreprises, soit des lobbies du monde industriel. Il y avait seulement 12 rendez-vous, et donc il y en avait 4 avec des grandes entreprises françaises, dont 2 avec EDF, 1 avec Dassault et un autre avec CMA-CGM, qui est une grande entreprise de transport maritime. Ensuite, il y en avait avec des lobbies spécifiquement français, et il y en avait quelques-uns avec des lobbies européens, des think tanks, et un seul avec une association, donc sur 12, qui était une association représentant les droits des handicapés. Et là, on peut regarder rapidement la liste qui était un peu mise à jour, donc on voit qu'effectivement, 22 octobre, rencontre avec Renault et avec Safran, donc deux grands groupes du CAC 40, 21 octobre, rencontre avec la Confédération des Buralistes, donc un lobby, pas d'une grande entreprise, mais d'un secteur particulier, et avec Eramet, qui est une entreprise minière, etc., etc.
Oui, donc il y aurait une surreprésentation des grands groupes privés ou pas d'ailleurs. Et le gouvernement français, lui, qu'est-ce qu'il en dit de ces lobbies ?
Eh bien, il les rencontre, bien sûr, mais pour lui, c'est normal. Nous discutons avec tout le monde, explique Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes.
Il y a des rendez-vous avec des fédérations professionnelles, il y a des rendez-vous avec des syndicats, des collectivités locales, il y a des rendez-vous avec des think tanks, y compris des organisations non gouvernementales. J'ai toujours répondu à leurs sollicitations. Ne pas rencontrer, ne pas écouter, ne me paraît pas être un signe d'intelligence politique. L'influence, c'est quand vous êtes dépendant d'un point de vue, quand vous cachez vos contacts, quand vous êtes financé ou dépendant de tel ou tel secteur, de telle ou telle entreprise, ça c'est de l'influence.
Ouais, donc côté français, on se dit indépendant des lobbies. Maintenant, la France, Benoît, quand elle le peut, elle pousse aussi ses propres pions.
Oui, et ça, on le voit bien, notamment à travers EDF. Le groupe français s'est montré notamment très actif lorsque le nucléaire a failli être exclu de la taxonomie. Vous vous souvenez, ce label vert énergétique dont on parlait tout à l'heure. C'est ce que rappelle Paul Schreiber de l'ONG Reclaim Finance.
EDF, c'est l'entreprise du nucléaire la plus présente au niveau européen dans ses rendez-vous avec la Commission. Nous, on avait recensé 12 rendez-vous d'EDF avec les fonctionnaires européens dans la période entre la publication d'un premier rapport technique sur la taxonomie qui excluait le nucléaire et la publication d'autres actes délégués qui envisageaient leur inclusion. Ça montre bien l'influence finalement d'EDF auprès de la Commission européenne. Pour nous, Reclaim Finance, l'implicite qu'il y a derrière, c'est bien entendu l'influence de l'État français. Parce qu'on peut difficilement distinguer EDF et l'État français dans le contexte actuel et vu la stratégie actuelle du gouvernement.
Mais comment on l'exerce concrètement, cette influence ?
Eh bien, elle s'exerce notamment à travers des sociétés extérieures, comme par exemple Athénora, créée en 2003. Ce cabinet de lobbying défend les intérêts de multinationales comme Vinci, mais aussi d'assureurs ou de mutuelles, de la Poste ou encore du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La liste de leurs clients est consultable sur le registre de transparence de la Commission européenne.
Mais ce cabinet Athénora, il fait quoi précisément ?
Eh bien, d'un côté, il défend les positions de ses clients à Bruxelles et de l'autre, il anime un cercle des réseaux européens dont font partie de nombreuses sociétés du CAC 40. Selon Olivier Petitjean de l'Observatoire des multinationales, c'est un outil d'influence supplémentaire.
Concrètement, ce qu'ils organisent, c'est des réunions privées, confidentielles, avec les décideurs. Donc là, on pointe qu'ils en ont organisé plusieurs dans le cadre de la préparation de la présidence. Et ils ont organisé aussi des sessions de formation avec Madame Europe à Matignon, la conseillère du Premier ministre en charge des questions européennes, qui chapeaute toutes les questions européennes. Et donc, en gros, ça leur permet de discuter à huis clos, de rencontrer les gens qui seront les chevilles ouvrières de la présidence française de l'Union européenne, d'avoir des informations en primeur sur ce qui se prépare, et à l'inversement, de faire passer leur message et leurs priorités directement à l'abri des regards du grand public. Et c'est quelque chose qu'évidemment tous les acteurs associatifs, syndicaux et autres, eux, ne peuvent pas faire. Ils n'ont pas cet accès privilégié aux décideurs.
Donc ce serait une forme de lobbying réservé aux intérêts privés ?
Bah, disons que ça y ressemble. Parmi les invités de ce cercle, on trouve quand même le secrétaire général de la présidence européenne, François-Xavier Lapeyre de Cabanes. Mais du côté du cabinet Athénora, on considère qu'il ne s'agit pas de lobbying en tant que tel. Écoutez sa directrice générale, Natacha Clarac.
En fait, il faut séparer notre travail de lobbyiste pour lequel on travaille pour des clients. Et donc là, on mène des actions d'influence, on rédige des position papers. Et notre activité dans le cadre des cercles, faire du lobbying, ça veut dire aller convaincre, faire œuvre de conviction, aller porter des arguments. Et c'est pas du tout ce que l'on fait dans le cercle. Le cercle, c'est 90 minutes de temps d'échange où on peut poser des questions et où l'intervenant que l'on invite va présenter en substance sa vision et collecter aussi les questions des membres, et c'est ce qui intéresse les décideurs qui viennent dans ce cercle, c'est ce que sur un temps très court, ils peuvent avoir la vision d'une dizaine ou vingtaine d'entreprises, leur lecture aussi des textes européens, donc ces réunions permettent de nourrir mutuellement la relation.
Ouais, donc pour elle, ce sera un simple lieu d'échange et d'information. Maintenant, si on regarde vraiment, Benoît, toutes ces actions de lobbying dont on vient de parler sous différentes formes, est-ce qu'elles ont des conséquences concrètes ?
Bien sûr, on l'a vu notamment en matière de transparence fiscale, par exemple. Après le scandale des Panama Papers en 2016, le Parlement européen propose que chaque multinationale publie le détail de ses activités, non seulement au sein de l'Union européenne, mais aussi dans le reste du monde. Sauf qu'à l'arrivée, l'objectif d'une transparence est limité à l'Union européenne. Et la France aurait joué un rôle particulier dans cette affaire, comme l'a révélé Jean Combe dans le journal Contexte.
Il y a un document qui a circulé à Bruxelles, qui est écrit par la France et qui insistait beaucoup sur la compétitivité des entreprises. Donc l'idée que les entreprises européennes et françaises, avec ces publications, dévoilaient beaucoup de détails sur leur stratégie et donc les concurrents américains auraient pu avoir accès à ces données. Et donc la transparence totale, complète, était dangereuse pour la compétitivité française et européenne. Ce document est intéressant parce qu'en fait, on l'a récupéré à Contexte, on l'a analysé, on a cherché un peu à comprendre. On s'est rendu compte qu'en fait, il avait été écrit sur la base d'une note que le MEDEF avait écrit. Le MEDEF avait écrit une note à l'intention de Bercy, avec sa position sur le sujet. Et en gros, Bercy avait repris la note, l'avait un peu modifiée, et les arguments étaient assez similaires. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, dans les métadonnées, on voyait réapparaître le nom de la fiscaliste du MEDEF.
Oui, ça nous ramène au sujet de départ, Benoît. Jusqu'où les liens, finalement, entre intérêts privés et publics peuvent déteindre sur les politiques publiques?
C'est ça. Et pour la représentante de l'ONG Corporate Europe Observatory, Vicky Kahn, cette question du sponsoring et du mécénat est en fait le symptôme d'un problème beaucoup plus profond.
Le Conseil de l'Union européenne est depuis longtemps trop proche des intérêts des grosses entreprises. Le symbole que constitue le sponsoring et les logos affichés par les marques n'est que la partie émergée de l'iceberg si on regarde les effets du lobbying sur les États membres et la législation européenne. Pour nous, le fait de parler publiquement du parrainage privé, c'est aussi une manière de parler du risque de capture du politique par les multinationales. Il faut vraiment s'assurer que c'est bien l'intérêt général qui prévaut et pas l'intérêt étroit des grosses entreprises.
Et je précise qu'après la France, qui prendra donc la présidence de l'Union dans 14 jours, c'est la République tchèque puis la Suède qui lui succéderont.
Et ce sera le mot de la fin, Benoît Colomba, en tout cas pour aujourd'hui, parce que cette présidence, on va en entendre parler dans les semaines qui viennent. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Maxime Goudard. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.